France Inter,
franceinter.com. Bonjour, aujourd'hui un roi qui a régné 40 ans sur la France, Charles VII.
Noble seigneur Dauphin, je suis venu et suis envoyé de par Dieu pour porter secours à vous et au royaume.
Comment t'appelles-tu ?
J'ai nom Jeanne la Pucelle et vous mande le roi des cieux par moi que vous serez sacré et couronné à Reims.
ans d'histoire. Avec un père fou, une mère qui l'avait déshérité et un royaume de France sur lequel il avait si peu d'autorité qu'on le surnommait par dérision le roi de Bourges, personne n'imaginait que Charles VII deviendrait un jour un des souverains les plus importants du Moyen Âge. Mais un roi aujourd'hui oublié, beaucoup moins connu que ceux avec lesquels il avait reconquis sa couronne, mis fin à la guerre de Cent Ans et construit un État moderne. De son règne de près de 40 ans, on se souvient plus de Dunois, de Gilles de Rais et de Jacques Coeur que de Charles VII. Mais on se souvient surtout de cette petite bergère de Don Rémy qui avait un jour décidé d'aller à Chinon pour l'aider à reconquérir son royaume et à bouter les Anglais hors de France.
Il faut que j'aille à Chinon, même si je dois m'y user les pieds jusqu'aux genoux. Il le faut absolument. Il n'y a personne au monde, personne. Ni duc, ni prince, qui peut recouvrer le royaume de France. Il n'aura pas secours si ce n'est de moi. Je sais bien que c'est pas mon état. J'aurais préféré mille fois rester à la maison, à filer et à coudre avec ma mère. Mais il faut. C'est mon seigneur qui le veut.
Georges Minois, bonjour.
Bonjour.
On vient d'entendre un extrait du film Jeanne d'Arc de Jacques Rivette. Jeanne d'Arc qui est beaucoup plus célèbre que le roi auquel elle avait rendu sa couronne, Charles VII, dont vous avez écrit une belle biographie de 800 pages chez Perrin. Alors il en fallait sans doute pas moins pour un roi dont le règne, vous le rappelez, a été un des plus longs et un des plus importants de l'histoire de France, près de 40 ans. Alors que l'époque de Jeanne d'Arc, au fond, n'en a duré que deux. L'épopée de Jeanne d'Arc n'a duré que deux ans. Et pourtant, quand on pense à cette époque, Georges Minois, le premier nom qui vient à l'esprit, c'est évidemment celui de Jeanne d'Arc et pas celui de Charles VII, comme s'il avait été, au fond, qu'une espèce de figurant dans l'histoire.
Oui, c'est un personnage très discret, effectivement. Jeanne d'Arc a tiré à elle la couverture. Et Charles VII, qui est un personnage timide, mélancolique, un petit peu, je dis quelquefois, spectateur de son règne, semble rester toujours dans l'ombre, un petit peu aussi comme le montre le fameux portrait de Fouquet, où on le voit là, hiératique, à demi caché par des rideaux. C'est donc un personnage qui n'a pas, évidemment, la flamboyance qu'ont eu certains de ses prédécesseurs, ou bien alors le machiavélisme affirmé de son successeur.
Louis XI.
Son fils, voilà. Donc, effectivement, c'est quelqu'un qui n'a pas attiré à lui les feux de la rampe et qui s'est laissé éclipser par des personnages très hauts en couleur, comme Jeanne d'Arc, mais aussi, vous avez dit, Gilles de Rais ou Jacques Coeur, etc.
Vous avez dit terne, un peu triste, un peu sinistre, un peu mélancolique. Il y a de quoi ? Quand il arrive, quand il monte sur le trône de France, quand il devient roi, son règne commence à une des époques les plus sombres de notre histoire. D'abord, nous sommes, il faut le rappeler, à la fin de la guerre de Cent Ans. C'est d'ailleurs lui qui va y mettre un terme. Mais enfin, cette période est extrêmement éprouvante, très dure, très sombre dans l'histoire de France, Georges Minois.
En effet, très sombre. La meilleure comparaison qu'on puisse faire, en fait, c'est avec la période 1940-44.
L'occupation.
C'est géographiquement, d'ailleurs, il y a énormément de ressemblances. On a une France qui est coupée en deux. Tout le nord est occupé par les Anglais, qui ont exterminé l'armée française à Azincourt quelques années auparavant. Tout le nord et l'ouest du pays. La ligne de démarcation est à peu près sur la Loire. Donc, À Paris, on a un gouvernement anglais. Le roi d'Angleterre se prétend roi de France depuis 70-80 ans déjà. Et donc, au sud, on a un autre gouvernement. Alors là, c'est pas Vichy, c'est Bourges, mais c'est le gouvernement de la résistance, en quelque sorte, avec donc le roi de Bourges, qui lui se prétend l'authentique roi de France. On a donc deux rois.
Charles VII.
C'est Charles VII. Ouais. Donc, on a donc deux rois, deux France. On a un pays qui est livré à la guerre en permanence depuis 70-80 ans, hein, des troupes de mercenaires. La guerre de Cent Ans a commencé vers 1340, dans les troupes de mercenaires qui ravagent le pays en permanence.
On appelle les écorcheurs.
Alors, ces fameux écorcheurs, oui, le nom est très suggestif, hein, de leur comportement. Donc, voilà, un pays qui est vraiment... qui se dépeuple, d'ailleurs, qui est dans une situation économique, démographique absolument catastrophique.
Puisque vous faites la comparaison avec Vichy, il y avait aussi ce qu'on appellerait, bon, le mot est peut-être un peu fort en ce qui concerne le duc de Bourgogne, mais les collaborateurs, car le duc de Bourgogne, qui est en principe un vassal du roi de France, travaille pour les Anglais, d'ailleurs à tel point qu'avant même de monter sur le trône, Charles VII va l'assassiner, ce qui va d'ailleurs peser très lourd dans l'avenir. Charles VII, qui n'est encore que dauphin, va l'assassiner, ce qui va peser très lourd, est l'assassinat de Montereau.
C'est ça. Alors, en fait, oui, c'est une partie à trois. Hein. On a le roi d'Angleterre, on a le duc de Bourgogne, qui est en train, lui, de se construire un État indépendant qui irait de la mer du Nord à la Méditerranée, en gros, plus ou moins. Donc, au cœur de l'Europe, là, entre la France et le Saint-Empire, morceau par morceau, patiemment, il est en train de se construire cet État. Et pour le moment, son intérêt, ce serait justement de collaborer avec le roi d'Angleterre pour affirmer son autorité sur l'Est de la France. Et puis enfin, on a Charles VII qui, lui, est retranché à Bourges et qui règne essentiellement sur la France du Sud et du Sud-Est.
Et puis alors, un Charles VII, quand même, il y a de quoi être éprouvé, il y a de quoi être sombre et sinistre, dont la mère... Hein, alors, il est le fils d'un roi fou, qui est Charles VI, ce qui a pas arrangé les choses. Sa mère, c'est-à-dire la femme de Charles VI, Isabeau de Bavière, va même le trahir en déshéritant son propre fils au profit du roi d'Angleterre. C'est dans le traité de Troyes, en 1420, Isabeau de Bavière, d'accord avec le duc de Bourgogne et avec le roi d'Angleterre Henri V, bien sûr, dit bah non, à la mort de mon mari Charles VI, c'est le roi d'Angleterre qui sera roi de France. C'est quand même extraordinaire, cette situation.
Oui, tout à fait. Alors, on emploie dans les textes officiels de l'époque la fameuse expression « soi-disant dauphin » pour qualifier Charles.
Alors, oui, parce qu'on soupçonne en plus, on laisse courir le bruit qu'il serait bâtard, donc indigne de devenir roi de France.
Voilà, parce que Isabeau de Bavière, bon, est une femme à la conduite un petit peu légère, disons, épouse d'un roi fou qui aimait bien le duc d'Orléans. Donc, il y a un soupçon qui pèse là-dessus, hein. Alors, c'est une des raisons de l'emploi, probablement, de cette expression. Mais effectivement, pour Charles VII, a, semble-t-il, tout de même, ça a pesé sur sa psychologie aussi, cette incertitude concernant ses origines, tout à fait, oui.
Alors, Charles VII, c'est plutôt mal parti pour lui. Il devient Charles VII lorsque son père meurt en 1422, lorsque Charles VI meurt en 1422. Et là, la France... conformément au traité de Troyes, elle a deux rois. Elle ne sait plus à quel roi se vouer. Il y a le roi d'Angleterre, le jeune Henri VI, puisque Henri V est mort. Donc il y a le roi d'Angleterre qui se dit roi de France et d'Angleterre. Et il y a Charles VII qui se proclame roi, mais qui ne règne même plus à Paris, qui est relégué effectivement dans ses châteaux sur la Loire. Il y a Loche, il y a Chinon, et que personne ne prend vraiment très au sérieux. Il a très peu d'alliés, Georges Minois.
Oui, à cette époque, il a peu d'alliés, il est extrêmement faible et on s'attend d'ailleurs, je dirais pas d'un moment à l'autre, mais d'une année à l'autre, on s'attend à sa part de France s'effondre complètement. D'ailleurs, il semble qu'il ait même envisagé lui-même de s'exiler en Espagne ou en Italie au moment les plus sombres de sa jeunesse, justement, parce qu'il accumule les défaites face aux Anglais qui sont en train de traverser la Loire. Oui.
Et il est encore à Chinon lorsque Jeanne d'Arc arrive le 6 mars 1429 et reconnaît ce roi qu'elle voyait pourtant pour la première fois.
Regarde comme je suis vêtu. Pourquoi serais-je celui que tu appelles gentil dauphin ?
Je sais que c'est toi, le vrai héritier de France, le fils de roi.
Que veux-tu ? Qu'attends-tu de moi ?
Je suis venu et suis envoyé de par Dieu pour porter secours à vous et au royaume.
Comment t'appelles-tu ?
J'ai nom Jeanne la Pucelle. Et vous mandez le roi des cieux par moi, que vous serez sacré et couronné à Reims. Et vous serez lieutenant du roi des cieux, qui est roi de France. Gentil dauphin, donnez-moi des gens pour que je fasse lever le siège d'Orléans et que je vous conduise à Reims.
C'était la rencontre entre Jeanne d'Arc et Charles VII à Chinon, le 6 mars 1429. Une rencontre dans laquelle, dites-vous, Georges Minois, le merveilleux et le légendaire ont pris le pas sur la réalité. Alors, quelle est la réalité? Est-ce que c'est une légende, cette rencontre?
La rencontre elle-même n'est pas une légende, bien entendu, non. Là, tous les documents concordent. Ce qui devient légendaire et mythique, c'est évidemment tout ce qui a été brodé autour de cette rencontre. Alors, cette histoire de reconnaissance d'un roi qu'elle n'a jamais vu, la conversation secrète qu'ils ont eue au cours de laquelle elle lui aurait révélé quelque chose. Alors, on a fantasmé sur toutes ces expressions. Enfin, il faut être un petit peu sérieux tout de même. Qu'est-ce qu'une bergère de Lorraine pouvait avoir à révéler à ce personnage que d'autres ne savaient pas? Les faits avérés sont qu'elle est venue, qu'elle s'est présentée, que le gouvernement de Charles VII, qui n'avait plus rien à perdre, et qui vivait également dans une atmosphère, d'ailleurs, on le dira peut-être tout à l'heure, de merveilleux, évidemment très forte à l'époque, a fini par se dire qu'après tout,
il y avait des superstitions.
Alors oui, c'est une époque, on est en pleine fin de Moyen-Âge, une époque d'exaltation spirituelle notamment, d'attente plus ou moins d'apocalypse, il y a beaucoup de prédictions astrologiques qui circulent, il y a des tas d'inspirés qui surgissent ici et là, le journal du bourgeois de Paris le raconte très bien, tous les 15 jours, il y a donc un inspiré qui arrive et qui se présente soit comme le Messie, soit comme le Sauveur, soit comme le libérateur. Des Jeanne d'Arc, il y en a eu d'autres, bien entendu. On vit dans cette atmosphère en permanence et les gens de l'époque, même les plus sérieux, sont très hésitants, le roi lui-même, probablement, et se disent que, cette fille finalement a une telle personnalité qu'après tout, comme on n'a plus rien à perdre, on va utiliser cette dernière carte.
Et puis surtout, vous le dites, Georges Minois, au fond, elle dit à Charles VII ce qu'il avait envie d'entendre. Tu es le fils de Charles VI, tu n'es pas le soi-disant dauphin, tu n'es pas bâtard. Enfin bref, elle le galvanise quand même, et elle va galvaniser d'ailleurs l'armée qu'on va lui confier et avec laquelle elle va délivrer Orléans, qui est assiégé par les Anglais déjà depuis 7 mois, depuis octobre 1428. Et il y aura également la bataille de Patay. Ça, c'est pas une légende.
C'est pas une légende du tout, non. La présence de Jeanne, certainement, a eu de l'influence, notamment, je dirais, sur la base, si on peut se permettre l'expression, parce que les chefs de guerre, en fait, sont passablement agacés. Ça, on le voit très bien dans les chroniques. Les chefs de l'armée de Charles VI sont très agacés de voir cette fille prendre le pas, leur donner des ordres, quasiment mépriser toutes les conventions militaires et les stratégies habituelles de l'époque. De toute façon, elle n'a jamais été bien acceptée, je dirais, par les cercle dirigeant de l'époque. Elle inspire sans doute de la confiance aux soldats de base qui peut se dire que peut-être effectivement c'est une envoyée de Dieu et que donc Dieu est avec eux. Voilà. Mais dans le haut commandement, je dirais, elle est vraiment mal acceptée, mise de côté. D'ailleurs, on va la laisser tomber dès aux premières occasions.
Oui. Hein. Mais entre-temps, quand même, elle a suffisamment galvanisé l'opinion publique, comme on ne dit pas encore à l'époque, mais enfin disons les Français et les soldats, pour que après ces victoires, donc justement Jeanne d'Arc conduise Charles VII à Reims pour le faire sacré en juillet 1429.
Gentil dauphin, vous serez roi quand vous aurez été sacré à Reims. C'est le seul chemin.
Reims. Vous voulez qu'on traverse la Bourgogne? Qu'on aille provoquer Philippe dans ses terres?
Je veux Reims.
Jeanne, avant Reims, il faut soumettre Auxerre, Troyes et d'autres villes encore.
Jeanne, que réponds-tu?
D'abord la couronne. Quand vous aurez reçu la couronne à Reims, Qui parlera encore d'Henri de France et d'Angleterre? Personne. Qui pourra vous nuire sans en même temps offenser Dieu? Personne. Ni régent d'Angleterre, ni duc de Bourgogne. Personne. Et leur puissance diminuera toujours. Et la vôtre grandira toujours.
Vivat Rex in eternum.
C'était le sacre de Charles VII à Reims le 17 juillet 1429, c'est-à-dire 7 ans après qu'il se soit proclamé roi, mais il n'était pas sacré. L'importance du sacre, Georges Minois, c'est vrai qu'à ce moment-là, ça lui donne une espèce d'onction divine qui le place au-dessus du roi d'Angleterre qui prétend lui aussi être roi de France.
Oui, c'est ça. Enfin, la valeur, évidemment, c'est l'onction divine. C'est que maintenant, il peut se présenter comme loin du Seigneur. Voilà. Pour l'opinion publique, c'est un acte à destination de l'opinion publique. C'est bien évident, quoi. Hein, parce que, à part cela, sur le plan, je dirais, concret, militaire, matériel, bon, ça n'a pas changé grand-chose. Hein, le sacre, il faut bien dire. Alors, le roi d'Angleterre, d'ailleurs, a essayé de rattraper les choses 2 ans après, en se faisant lui aussi sacré, mais à Paris. Alors, ça n'avait pas la même valeur. Le sacre de Reims, évidemment, était traditionnel dans la monarchie. Mais ce sont des actes qui sont jugés à l'époque, évidemment, importants pour l'opinion publique.
Alors à ce moment-là, quand même si c'est un peu grâce à elle qu'il est sacré, Jeanne d'Arc devient une espèce de pion entre les mains et d'une politique, en effet, celle de Charles VII, qui d'ailleurs va la laisser tomber. Elle est arrêtée par les Bourguignons qui la livrent aux Anglais en 1430. Elle sera condamnée, on le sait, comme sorcière, Brouilleville comme sorcière, parce qu'il s'agissait pour les Anglais de démontrer que puisqu'elle était sorcière, ça veut dire qu'au fond, eh bien, le roi Charles VII et le sacre n'avaient plus aucune valeur. C'est ça l'objectif.
Bien sûr, l'objectif du procès, c'est ça avant tout. Si Jeanne d'Arc est inspirée par le diable, comme elle l'a combattu pour Charles VII, ça veut dire que le camp de Charles VII, c'est le camp du mal, quoi. Hein, c'est l'empire du mal de ce côté-là. Et vice-versa, c'est-à-dire que lorsque Charles VII aura pris le dessus, lui, il va faire réviser le procès. Et on va interpréter les mêmes éléments dans le sens inverse, c'est-à-dire que pour prouver que c'est une sainte, et donc que Dieu était véritablement du côté de Charles VII.
Alors cela dit, en 1431, lorsqu'elle est brûlée vive, Charles VII ne bougeant absolument pas d'ailleurs pour l'en sortir, ça c'est évidemment une tâche assez noire dans son histoire, c'est qu'il a une autre idée en tête, c'est de faire la paix avec le duc de Bourgogne. C'est peut-être pour ça qu'il laisse tomber Jeanne d'Arc, le duc de Bourgogne avec lequel il va effectivement signer un traité, le traité d'Arras en 1435, assez humiliant pour Charles VII, mais qui lui permet donc de séparer les Anglais des Bourguignons. Les Anglais se retrouvent seuls, sans alliés en France, Georges Minois.
Oui, là c'était indispensable pour Charles VII. S'il voulait l'emporter, il fallait effectivement que le duc de Bourgogne, Philippe le Bon, soit neutralisé. Parce que les Anglais sont, à cette époque, ils ont aussi de gros problèmes, hein, parce que le petit Henri VI n'est encore qu'un petit enfant. Il y a des disputes au sein du gouvernement anglais, entre le duc de Bedford, qui est le régent de France, et puis son frère, le duc de Gloucester, en Angleterre. Ça ne va pas du tout. Et ils ont des problèmes financiers également pour financer l'occupation du nord de la France. Donc si on arrive à mettre le duc de Bourgogne de côté, ça risque de changer beaucoup de choses.
Alors, effectivement, les Anglais se retrouvent seuls en France et se retrouvent seuls face à une armée que Charles VII va transformer. Dans l'œuvre de Charles VII, qui est considérable, il a régné, il faut le dire, 40 ans, il y en a une sur laquelle vous insistez. C'est la création pour la première fois en France d'une armée permanente. On n'avait jamais vu ça encore.
C'est ça. L'armée médiévale traditionnelle, je dirais, c'est l'armée féodale, c'est-à-dire les contingents de vassaux que le roi convoque lorsqu'il en a besoin et qui ne sont obligés de servir normalement que 40 jours et qui peuvent se disperser ensuite. Et il n'y avait absolument pas d'armée permanente. Ce qu'il y avait, c'était aussi des mercenaires, bien entendu, extrêmement coûteux et puis qui, lorsqu'ils ne sont plus payés ou lorsqu'il y a des trêves, vivent sur le pays.
Ils deviennent les écorcheurs.
Deviennent les écorcheurs. Donc la grande innovation, c'est effectivement la création des compagnies d'ordonnance, c'est-à-dire une armée régulière et surtout régulièrement payée, de façon à éviter qu'elle vive sur le pays et provoque des désordres.
Donc une grande nouveauté grâce à laquelle Charles VII va chasser les Anglais de Normandie, de Guyenne, où ils se trouvaient déjà quand même depuis 3 siècles, et de terminer donc la guerre de 100 ans, 116 en fait, puisqu'elle avait commencé en 1337, mais elle avait été interrompue par de très nombreuses trêves. Donc la guerre se termine victorieusement pour Charles VII à la bataille de Castillon en 1453, mais Charles VII à la tête d'un royaume ravagé, ruiné, ce qui ne l'empêche pas d'ailleurs de couvrir de cadeaux la première favorite officielle d'un roi de France, Agnès Sorel.
Je préférerais perdre une province que vous-même, Agnès. Une province, entendez-vous?
Il serait mieux de nous garder toutes les deux. Et la province, et moi.
Agnès, mamie.
Sire Charles.
Je vous donne la seigneurie de Roquesaisière en Rouergue. Je vous donne la seigneurie d'Issoudun en Berry. Je vous donne la seigneurie de Vernon. Je vous donne la seigneurie d'Anneville.
Et moi, je vous aimerai toujours, quand bien même vous me reprendriez tous ces dons.
Dès aujourd'hui, vous recevrez 300 livres de pension.
Je ne les prends que pour tâcher à être plus belle et à vous plaire plus encore.
Agnès Sorel, je crois, était la première maîtresse officielle, favorite. Jamais les rois n'avaient comme ça montré en public leur affection, leur amour pour une femme. Alors on l'a évoqué il n'y a pas si longtemps dans notre émission, on ne va peut-être pas insister dessus, Georges Minois, mais je voudrais qu'on rappelle quelque chose, c'est que elle est morte d'ailleurs avant même la fin de la guerre de Cent Ans, mais à ce moment-là, la France est vraiment ruinée. Or, ce qui se passe, c'est que Charles VII, en quelques années, va la redresser économiquement d'une façon très spectaculaire, en s'appuyant notamment sur une bourgeoisie qui va accéder au pouvoir. Je pense évidemment à Jacques Coeur. Cet essor économique, on en parle rarement. Georges Minois, il est considérable sous Charles VII.
Oui, alors ça commence aux alentours de 1440, d'après les études qui ont été faites. Alors, évidemment, Charles VII n'avait pas vraiment de politique économique, si on peut employer le terme. Il y a un retournement de conjoncture, disons, qui se produit à cette époque-là, qui ne touche pas seulement la France, d'ailleurs, mais l'Europe entière, je dirais. On se relève petit à petit des désastres provoqués par la peste noire et des récurrences de la peste noire. Mais c'est vrai qu'avec le retour de la paix en France, donc, le commerce va pouvoir reprendre sur la Seine, les communications avec le Nord, les échanges avec l'Angleterre, et puis l'ouverture sur la Méditerranée avec, vous le disiez, Jacques Coeur notamment, alors le premier grand capitaliste français qui joue certainement un rôle très très positif dans cette affaire. Or, c'est un homme que Charles VII va laisser tomber également, comme il a laissé tomber Jeanne d'Arc. C'est une des curiosités, je dirais, de ce règne. Charles VII semble abandonner les gens qui le servent les uns après les autres et sans remords, sans se poser de questions, semble-t-il.
C'est le pouvoir, souvent, on dit ça, d'autres chefs d'État. Cela dit, il va quand même s'entourer d'une bourgeoisie, comme l'avait fait d'ailleurs avant lui Philippe le Bel ou encore Charles V. Autre innovation, là, les premiers impôts permanents. Après la première armée permanente, les premiers impôts permanent. C'est peut-être lié d'ailleurs, c'est pour entretenir l'armée notamment qu'il fallait des impôts permanents, et ça c'est une nouveauté en France.
Tout à fait, jusque-là le roi, il faut bien se représenter que le roi ne pouvait pas lever d'impôts sans demander l'avis d'assemblées provinciales qu'on appelait les états provinciaux qui représentaient la population. Mais chaque année il fallait renouveler l'opération lorsque le roi avait besoin d'argent. La grande nouveauté, c'est que la taille désormais, le principal impôt, c'était l'impôt sur le revenu de l'époque, la taille va être un impôt que le roi va lever sans demander d'autorisation quelconque.
Et sans beaucoup d'opposition de la part des gens importants du royaume, puisque d'emblée, et le clergé et la noblesse en sont dispensés. Alors, un rôle très important, des innovations très importantes, une fin de règne quand même assez triste pour Charles VII, puisque son fils, le futur Louis XI, complote contre lui. C'est assez triste la fin du règne de Charles VII.
Oui, c'est triste parce que là, entre le roi et son fils, le dauphin, les choses se détériorent très très gravement. Au départ, le dauphin a été manipulé, c'est vrai, par les grands du royaume, mais très vite, il a pris conscience de ses capacités. On sait qui est Louis XI, le genre de caractère. Et le duc de Bourgogne, bien sûr, va profiter de cette rivalité entre le roi et son fils. Le duc de Bourgogne va accueillir chez lui, loger, nourrir, entretenir Louis XI. Ce qui fera dire d'ailleurs à Charles VII que mon cousin de Bourgogne entretient le renard qui lui mangera ses poules. Ouais. Effectivement, c'est assez prophétique. Mais ça montre aussi le tempérament du futur roi.
Fin de règne assez triste qui se termine donc avec la mort de Charles VII en 1461. Il a 58 ans et puis après on a très peu parlé de lui. Il y a très peu de biographies et je dois dire que je salue pour cette raison la vôtre, Georges Minois, puisque c'est une des toutes premières, une des rares biographies de Charles VII qui existe, et en 800 pages en plus. Charles VII, un roi shakespearien, publié chez Perrin. À lire également Roi de France de Jean-Baptiste Santamaria, un petit livre synthétique sur l'identité des 65 rois qui ont régné en France chez First Edition, et Souverain et roi de France de Claude Gauvard et Joël Cornette et Emmanuel Furex, un très beau livre, magnifique, magnifiquement illustré, publié aux éditions du Chêne. Je rappelle que vous êtes également, Georges Minois, l'auteur du livre « Le culte des grands hommes », récemment publié chez Audibert. Vous avez pu entendre des extraits de Jeanne Lapucelle, de Jacques Rivette, avec Sandrine Bonner, merveilleuse dans le rôle de Jeanne d'Arc, un film disponible en VHS chez Citel Vidéo. Également un extrait de « La tribune de l'histoire » d'André Castelot, Alain Decaux et Jean-François Cap en 1971. Toutes ces références sont disponibles par téléphone au 32 30, 34 centimes la minute ou sur franceinter.com. C'était 2000 ans d'histoire. Merci à Edwin Caron, Ludovic Asselot, Claire Tesser, Claire Destacan et Mathieu Ménossi. Et à Anne Kobilac, notre réalisatrice.